Je disais que c'était le... Ah, voilà, ça marche cette fois. Je disais que c'était le grand complet cette fois. Et très heureux d'avoir au moins cette réunion une fois dans l'année. Parce que c'est difficile de vous regrouper maintenant tous ensemble. Et ce sera encore plus difficile l'année prochaine quand il y en aura 30 de plus. Enfin, désormais, ce sera Albano qui va doubler. J'espère que ceux qui se rendront là-bas pour la deuxième fois, eh bien, profiteront encore bien de cette année d'Albano. Si j'avais pensé seulement à un an au début, c'était en principe les prêtres qui devaient aller à Albano. J'avais pensé que c'était une année pour les prêtres, et puis, ma foi, avec les événements ont voulu que ce soit donc la première année après l'année de spiritualité. Si cette année s'était passée et si on avait dû rester à Rome, dans la ville de Rome, je crois que j'aurais été assez défavorable à une deuxième année à Rome. Parce que malheureusement, la ville de Rome elle-même est loin d'être édifiante. Mais Albano, c'est autre chose. C'est un peu plus éloigné. Le climat y est meilleur. C'est pas vrai? Vous êtes tout près de la maison de repos du Saint-Père. Et je suppose que si les papes ont choisi Castel Gandolfo comme lieu de repos d'été, c'est que le climat ne doit pas être mauvais. Le climat est certainement meilleur à Albano qu'à Rome, en tout cas. Le climat non seulement physique, mais le climat moral aussi. Alors je pense qu'il ne sera pas trop désagréable et trop long pour ceux qui vont y passer 2 ans. Se trouver 2 ans dans cette ambiance de Rome. Nous sommes donc bien contents aussi de vous revoir ici à l'occasion des ordinations. C'est toujours un moment important dans la vie du séminaire. Et puisque j'ai l'occasion d'avoir ces quelques journées ici au milieu de vous avant l'ordination, alors je profite pour faire un peu le point avec vous sur certaines questions qui peuvent se poser. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'est l'histoire du séminaire que la Providence a permis au cours de ces maintenant 11 années de la fraternité, 12 années de la fondation du séminaire, car c'était dans 69, première année à Fribourg. Eh bien, le séminaire, comme toute institution humaine, a ses joies et ses épreuves. Les années ont été marquées parfois par certaines épreuves assez douloureuses, en particulier celle de 77, c'est-à-dire il y a maintenant 4 ans. Le séminaire a été assez fortement secoué. Pourquoi le séminaire a-t-il... Malgré tout, le séminaire et la fraternité, à travers ces difficultés, ont pu continuer. Je pense sincèrement que c'est parce que nous nous efforçons, je m'efforce personnellement et les êtres qui nous entourent nous efforcent de maintenir une attitude d'esprit, attitude intérieure, si je puis dire, attitude aussi de foi permanente et d'une orientation bien déterminée, bien définie. Alors on essaierait, on voudrait peut-être essayer de nous entraîner ici, là, et pour nous faire dévier de cette ligne qui semble bien être celle de l'Église, celle que l'Église a toujours tenue. Et ce n'est pas facile, évidemment, avec les années qui passent, avec les événements qui marquent la vie de l'Église, en particulier, évidemment, la succession des différents papes, depuis Jean XXIII jusqu'au pape Jean-Paul II. Cela a posé avec le concile, l'après-concile, les réformes, des problèmes vraiment délicats, difficiles à nos consciences de chrétiens, de prêtres, d'évêques, évidemment. Alors je voudrais, comme je l'ai déjà fait, répéter pour ceux qui peut-être ne m'ont pas souvent entendu au cours de conférences spirituelles, au cours de mise au point de ce genre, en particulier l'année de spiritualité. S'il est vrai, je dois bien reconnaître que je suis moins souvent à Écône qu'autrefois, que j'ai moins l'occasion peut-être de vous faire des conférences spirituelles, de vous préciser un peu ce que je crois être les lignes fondamentales de la fraternité et l'esprit que je souhaite voir régner dans le séminaire et dans nos séminaires. Alors je crois bon, au cours de ces conférences spirituelles, de le faire d'une manière plus précise. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur un point que je considère vraiment moins important que celui que je traiterai dans la suite, puisque là, il ne s'agit pas de questions d'orientation, d'idées, de principes, si vous voulez, dans le séminaire, mais de la discipline. La discipline du séminaire, la discipline de l'esprit, je dirais, de la discipline. Pourquoi je ne doute pas que le père directeur ait fait tout ce qu'il ait pu pour vous inculquer les bons principes du séminaire, mais peut-être ne les avez-vous pas entendus avec assez de docilité. Au moins, je parle en particulier, m'a-t-on dit, de l'année de spiritualité. J'en suis un peu surpris parce que, pour autant que j'ai fait les cours à l'année de spiritualité, je n'ai pas remarqué de différence particulière entre cette année et les années qui précédaient. Il paraît qu'il y a un peu plus de dissipation, un peu moins de conscience de la discipline nécessaire du séminaire. Et pour les anciens, ils le savent, puisqu'ils m'ont déjà entendu le dire et le répéter bien souvent, il est inconcevable pour des séminaristes de garder un esprit collégien. Un séminariste, s'il a été collégien, n'est plus collégien. Ce n'est pas possible. L'esprit collégien, c'est-à-dire qu'on, dans les règlements, on en prend et on en laisse. On les interprète à sa guise. On profite de toutes les occasions pour éviter ce qui est pénible ou ce qui est difficile dans le règlement. On a cet esprit qui critique ou qui ridiculise facilement ses professeurs, ses supérieurs. C'est ce que j'appelle l'esprit collégien, un esprit léger, un esprit qui ne se domine pas, un esprit qui se laisse aller à ses amusements. On s'amuse, on est toujours comme en amusement. On ne prend pas les choses au sérieux. Alors ça, c'est impossible. Un séminariste qui ne prend pas sa formation au sérieux, qui ne se met pas dans l'ambiance du séminaire, bien, c'est qu'il n'a pas la vocation, n'est pas à sa place ici. C'est évident, c'est clair. La formation du séminaire demande trop d'attention, trop de réflexion pour qu'on prenne les choses à la légère, pour qu'on traite le règlement avec légèreté et sans s'y tenir d'une manière régulière et sans y voir, avec esprit de foi, la volonté de Dieu. Si on vous donne des conseils et qu'il y a des consignes qui sont données dans le règlement du séminaire au sujet du silence, eh bien, il faut observer le silence. On ne doit pas, à toute occasion, et cherchait les occasions de rompre le silence, d'aller frapper à la porte de ses confrères, non seulement parce qu'on manque à la charité vis-à-vis de ce confrère qui est en train de travailler et qui a besoin de silence pour travailler, mais aussi parce que bien souvent, si on le fait sans raison suffisante, on perd son temps, on se dissipe. Or, quand on se trouve, et particulièrement dans une situation comme laquelle se trouve l'Église aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de gaspiller son temps et ses forces vives spirituelles à négliger sa formation, sa propre formation spirituelle au séminaire. Une année de perdue au séminaire, c'est le sixième de la formation qui est perdu. Et ça ressentira après sur votre formation générale. Il faut penser à cela. Les âmes réclament de vous que vous ayez une formation sérieuse, une formation profonde, une formation spirituelle. Or, cette formation, vous ne pourrez pas l'acquérir dans un climat d'indifférence au règlement, de légèreté, de distraction continuelle, de recherche des distractions. Vous ne pouvez pas acquérir de formation dans ce climat-là. Il faut une formation de domination de soi, de soumission à la volonté du bon Dieu, une formation qui recherche le silence afin d'être uni au bon Dieu, afin de vivre dans ce climat spirituel que doit être celui du séminaire. Alors j'insiste beaucoup là-dessus, parce que j'estime que c'est vraiment manquer de charité envers vous-même, pour ceux qui ont cet esprit, manquer de charité envers vous-même, manquer de charité envers vos confrères qui sont ici au séminaire, ou qui sont dans le séminaire, pour ceux que vous distrayez, que vous dissipez. Et c'est manquer de charité, surtout pour les âmes qui vous attendent. Parce que dans la mesure où le séminaire n'aura pas été fait avec sérieux, avec profondeur, dans un esprit vraiment de foi, dans un esprit de spirituel, de vie intérieure, mais dans cette mesure-là, vous perdrez aussi la profondeur de votre vie sacerdotale lorsque vous aurez dans le contact avec le monde extérieur plus tard. Vous n'arriverez plus à vous recueillir, vous n'arriverez plus à prier. Et c'est ça qui a perdu les prêtres qui ne prient pas, les prêtres qui ne savent pas ce que c'est que la prière, qui ne savent pas ce que c'est que l'union à Dieu, qui ne savent pas ce que c'est que la recherche du silence, ils ne savent pas ce que c'est que la recherche de la méditation. Les prêtres qui étaient tout extérieurs, à la moindre difficulté, ils ont perdu le sens sacerdotal. Alors, je pense que cette remarque vous fera réfléchir ceux qui ont cette tendance. Grâce à Dieu, ceux-là ne sont pas nombreux, mais ça peut être sans aucune malice, sans méchanceté, de manque de réflexion, manque de sérieux. Mais il faut certainement corriger cette tendance pour ceux qui l'auraient. Le séminaire a toujours été caractérisé précisément par cette ambiance de sérieux, de silence. Les personnes qui viennent au séminaire, qui ont l'occasion de visiter le séminaire, sont frappées en général par ce silence. Je me souviens que Mgr Morillo, une fois au temps où Mgr Morillo accepté de venir ici passer quelques jours, ancien évêque de La Rochelle, m'avait fait la remarque suivante à la fin de son séjour. Il m'avait dit, on a l'impression d'être dans un noviciat. Eh bien, ça avait été pour moi le meilleur compliment. Et oui, en définitive, c'est cette atmosphère qui doit régner, l'atmosphère de noviciat, c'est-à-dire de ceux qui recherchent avec patience, persévérance, volonté ferme, la perfection. Ils recherchent la perfection. Ils ne se laissent pas aller à leur petite caprice, à leur légèreté, à leur, aux distractions, ils ne prennent pas les choses au sérieux. Donc, chers amis, le drame que vit l'Église demande aujourd'hui à nos séminaires et à nos séminaristes cette recherche d'une grande perfection pour pouvoir donner au monde ce qu'il attend de vous, cette rénovation de l'Église, si nécessaire, si indispensable. Ensuite, autre remarque que je me permets également de faire. Et que dans celle-ci, il y a une atmosphère de ce genre. Il est aussi plus facile que se développe un certain esprit de critique. Je dis de critique, un certain esprit de critique. N'ayant pas l'esprit tourné uniquement vers sa propre formation, vers la formation surnaturelle, vers la formation spirituelle, vers sa propre sainteté, celui qui est comme ça, dans une ambiance de superficialité, eh bien, aura cette tendance à la critique. Il jugera ses confrères, il jugera ses professeurs, il jugera son directeur, il jugera tout ce qui se fait autour de lui. Comme il n'aime pas se retrouver avec lui-même et rentrer en lui-même pour voir ses propres défauts, essayer de se corriger, se critiquer lui-même, alors il aura cette tendance à critiquer l'extérieur, ce qui se fait autour de lui. Cette tendance à l'esprit critique est très mauvaise. On a bien plus davantage à se critiquer soi-même et à chercher à faire sa propre conversion que de toujours penser à la conversion de ceux qui vous entourent. C'est bien plus l'attitude dans le séminaire, et bien plus celle-là que d'autres attitudes. Sans doute, tout n'est pas parfait dans le séminaire, tout n'est pas parfait pour ceux qui sont vos pères spirituels, nous avons tous nos défauts, mais au lieu de rechercher justement ce qui est critiquable, ce serait plutôt le devoir de charité, le devoir de vérité devrait imposer de rechercher au contraire les qualités, les bienfaits que vous recevez ici de ceux qui peuvent vous enseigner, de ceux qui peuvent vous faire du bien. C'est comme cela que petit à petit, dans un climat d'esprit critique, que tout doucement viennent certaines petites crises à l'intérieur du séminaire, parce que à ces critiques s'opposent d'autres critiques, et ainsi se forment des petits groupes, des petits clans qui nuisent tout à fait à l'unité du séminaire, qui nuisent à ce climat général qu'on devrait ressentir au séminaire et qui est tout à fait favorable à la prière, à la formation spirituelle, aux études, ce qui, grâce à Dieu, en fait, c'est tout de même produit durant, ces 4 dernières années. C'est admirable de voir justement avec quelle conscience, avec quel zèle, les séminaristes, d'une manière générale, sont à donner à leur formation. Alors, ce ne sont souvent que des quelques unités, quelques petites qui troublent un peu, qui cherchent à troubler. Alors, malheureusement, si ces séminaristes-là ne cessent pas ces critiques ou continuent à manifester un certain esprit qui est contraire à la bonne tenue du séminaire et à la bonne entente dans le séminaire, à l'unité du séminaire, sont obligés de leur demander de partir, de quitter le séminaire. C'est pas possible. Ceux-ci critiquent ici au séminaire, ils continueront après leur séminaire. Et ils apporteront ce poison avec eux dans toutes les communautés où ils iront. Ils ont continué à avoir cette mauvaise habitude de tout juger, de tout critiquer, de tout passer au crible de leur petite intelligence. Ça devient intolérable après dans les petites communautés. Si c'est déjà intolérable dans les grandes communautés, c'est encore plus intolérable dans les petites communautés. Alors j'espère que ceux qui seront avertis de ces tendances feront un effort et retrouveront vraiment l'ambiance normale des séminaires, ce que nous souhaitons que soient nos séminaires. Ce serait si simple, si simple. On vous enseigne la vérité. Je pense qu'on vous enseigne aussi la vertu. On vous donne les facilités de la prière. On vous donne la prière la plus belle et les plus tonifiante, si je veux dire, et réconfortante que vous pouvez avoir, celle de la tradition, celle qui ont formé les saints. Nous vous donnons, je pense, un ensemble, et le règlement est suffisamment équilibré pour Dieu rendre la vie, même physique et matérielle, agréable. Alors vous avez donc fondamentalement tout ce qu'il vous faut pour être heureux, pour être unis, pour ne pas rechercher les divisions, pour ne pas chercher à fomenter les troubles. Alors, gardez donc l'unité entre vous, la soumission, le respect de ceux qui vous dirigent, ceux qui vous conseillent. Et vous pouvez être les plus heureux hommes du monde. Il y en a beaucoup qui souhaiteraient être à votre place. Alors, profitez bien, je vous assure, de tout ce que vous pouvez recevoir ici. Je crois sincèrement que dans l'ensemble, les prêtres qui ont quitté le séminaire et qui sont maintenant dans le ministère, eh bien, font un magnifique travail. Partout où je passe, on me félicite. Ces prêtres du ministère qu'ils font, de l'enseignement qu'ils donnent, de l'exemple qu'ils donnent, je souhaite que ça dure. Je souhaite qu'ils ne se fatiguent pas de donner cet exemple. Mais, vous le savez, au cours des années de l'histoire du séminaire, il y en a un certain nombre qui ont dû nous quitter. Ils nous ont quittés parce qu'ils ont, n'ont pas été fidèles. Été fidèles à l'esprit qui leur a été donné au séminaire et dans nos séminaires. Alors je supplie le bon Dieu de faire en sorte que ces choses-là ne se représentent plus pour le bien des fidèles, pour le bien de l'Église, pour le bien de la fraternité. Voilà des petites remarques qui sont surtout au sujet de la discipline du séminaire. Mais je pense que je dois maintenant préciser d'une manière exacte, plus formelle, l'attitude et la position de la fraternité, ma position, si vous voulez. J'essaye, pour ma part, je vous assure, de me mettre pleinement dans l'esprit de l'Église. Si je savais aujourd'hui, si j'en avais l'évidence, si j'avais même un doute sérieux sur la légitimité du combat que je mène et que je vous entraîne, je dirais, à mener avec moi, Si j'avais un doute sérieux, eh bien, j'arrêterais immédiatement. Je ne continuerai plus. C'est parce que je suis convaincu, absolument convaincu, de la nécessité pour le bien de l'Église, pour continuer l'Église, pour le bien des âmes, de maintenir cette fermeté dans la foi, cette fermeté dans la formation des séminaristes, cette fermeté dans la formation des prêtres, des séminaristes, cette fermeté dans le maintien de la tradition toujours, que je continue fermement, sans hésitation, sans aucun doute, même malgré les oppositions qui peuvent se manifester, oppositions qui nous viennent même des plus hautes autorités. Alors comment cette attitude s'est-elle concrétisée, je dirais, dans la vie de la fraternité? L'idée de la fondation de la fraternité n'était pas autre que de donner une bonne formation aux séminaristes et aux futurs prêtres. Comme ça qu'elle a commencé. Et si ça a commencé dans un climat de difficulté avec les autorités, mais parce que déjà l'ambiance était mauvaise et était difficile dans l'Église, et par conséquent l'établissement d'un séminaire gardant les traditions du Concile de Trente, gardant les conditions de formation traditionnelle, eh bien, cette formation devait nécessairement trouver des réprobations parmi ceux qui voulaient des changements et qui voulaient l'adaptation au monde moderne. Cette formation, nous avons commencé à la donner dès 69, et puis à plus forte raison, quand la fraternité a été reconnue, mais nous sommes rapidement trouvés en opposition avec les réformes, dès le début du séminaire, en 69. Il a fallu choisir. Est-ce que nous acceptons les réformes, est-ce que nous refusons les réformes? Pour moi, ça n'a pas fait un doute. Nous devions les refuser, radicalement. Ayant vécu le concile, la préparation du concile, ayant vécu le concile, ayant vécu le climat des réformes, puisque j'étais à Rome jusqu'en 69, je vivais à Rome, j'avais donc des contacts fréquents avec les milieux romains, avec les milieux des congrégations romaines. Pour moi, ça n'a pas fait un doute. Ces réformes qu'on voulait nous imposer étaient imposées à l'Église, non pas par l'Église elle-même, mais par des hommes qui sont à l'intérieur de l'Église, qui sont infiltrés à l'intérieur de l'Église et qui ont réussi par des manœuvres absolument illégitimes et illégales et qui ont réussi à faire imposer dans l'Église ces différents décrets des réformes, aussi bien réformes liturgiques que toutes les autres réformes. Je ne puis pas m'empêcher de penser, et je vous l'ai déjà dit, je crois, mais enfin peut-être que les séminaristes de l'année de spiritualité ne m'ont pas encore entendu dire ça, mais étant supérieur général, je faisais partie évidemment de l'union des supérieurs généraux de Rome. J'étais même membre du comité des supérieurs généraux. Je ne sais plus, 6 ou 7 supérieurs généraux élus qui représentions l'union générale des supérieurs généraux d'ordre, de congrégation, etc. Or, au moment de la réforme, et avant que la réforme ne fût définitivement acceptée par Rome, enfin par les congrégations romaines, eh bien, il était bien sûr déjà dans l'air qu'une réforme liturgique allait avoir lieu, et les supérieurs généraux ont demandé au père Bonini, en ce temps-là, il n'était pas encore monseigneur Bonini, au père Bonini, lui ont demandé de venir expliquer aux supérieurs généraux quelles étaient les, quelle était l'idée de la réforme, quelle était l'idée de cette messe normative dont on commençait à parler, qu'est-ce que c'était, en quoi ça consistait. Alors, nous étions 84 supérieurs généraux présents à la réunion que nous provoquait à cette occasion d'explication de la messe normative. Le père Bounini nous a parlé de cette messe normative absolument comme s'il n'y avait jamais eu de messe dans l'église. On aurait cru que c'était sa messe normative allait être la première messe qu'on allait célébrer dans l'église. Il n'a pas fait une seule allusion à la messe ancienne. À la messe normative, on fera ça, on fera ça, on fera ça, on fera ça, puis on fera encore ça, et puis on dira ça, puis on dira telle prière, et puis on pourra dire ça, et puis voilà, et puis il a expliqué toute cette messe normative. De manière invraisemblable, avec une inconscience, mais inimaginable. Je pense que la plupart des supérieurs généraux ont été absolument stupéfaits. Moi-même, j'ai pas eu le courage de faire une réflexion. J'étais tellement bouleversé par cette affaire. Chaque fois qu'il inventait encore une nouvelle chose, encore une nouvelle créativité de création de Bounini, je me disais, mais c'est pas possible que cet homme qui est devant moi soit le porte-parole de l'Église et du Pape. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. Comment est-ce possible qu'on nous parle avec une telle désinvolture du sacrifice de la messe, enfin, de cette messe normative? Comme si rien n'avait jamais existé dans l'Église, et qu'on allait la faire comme ça, comme ça, comme ça, de telle ou telle manière. Impossible. Bon, il y aurait plusieurs canons, et... Alors, à la fin de la conférence, il y a eu deux questions posées. Une première question, celle d'un je ne sais plus quel supérieur d'ordre ou de congrégation, qui a dit, mais mon révérend père, si je comprends bien, la messe normative va durer de 12 à 15 minutes, avec tout ce que vous avez dit, les prières que vous avez résumées, j'ai l'impression qu'il n'y a pratiquement plus d'offertoire, les oraisons diminuent, il n'y a presque plus d'oraisons après la communion, vous avez supprimé ceci, vous savez, il n'y a plus rien. Alors, il a répondu, on pourra toujours ajouter quelque chose. Ça, j'avais mes propres oreilles. Imaginez, entendre ça de la bouche de celui qui représentait le chef, l'auteur de la réforme liturgique en définitive. Celui en qui le pape faisait confiance pour la réforme liturgique. Bon, c'est pas possible. Après un autre, c'est un abbé bénédictin, l'abbé général des bénédictins, qui s'est levé puis qui a dit, mais mon père, vous avez parlé de participation active des fidèles, et vous êtes revenu indéfiniment. Enfin, en définitive, il semble que cette messe ait été inventée pour la participation active des fidèles à la nouvelle messe. Mais nous, bénédictins, nous disons la messe sans peuple, sans participation du peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Faut-il encore continuer à dire nos messes privées? Faut-il encore... Il a dit, oh, à vrai dire, on n'y a pas pensé. Il faut vous dire que l'ambiance dans laquelle s'est faite cette réforme de la messe, rien qu'à entendre celui qui l'a faite, ça suffirait déjà pour douter de la légitimité de cette réforme. Alors je continue les considérations que je vous faisais hier dans la première conférence au sujet de la réforme liturgique, qui évidemment est un événement qui a vraiment posé des problèmes graves à nos consciences et que nous n'avons pas le droit de négliger, que ce problème est lié vraiment le salut de beaucoup d'âmes et l'avenir de l'Église. Alors, je vous parlais hier des motifs, des critères externes de cette réforme liturgique qui manifeste que cette réforme a été faite dans des conditions qui sont absolument inadmissibles et dans une atmosphère qui n'est pas celle de l'Église, d'une manière qui n'est pas la manière dont l'Église a coutume de nous donner ses lois et de nous publier ses décrets, d'une manière absolument inadmissible. Je vous parlais de la conférence des supérieurs généraux à Rome. Et je peux encore ajouter certains faits, avec au moment de la publication de cette réforme liturgique, surtout celle de la messe, je suis allé voir le cardinal Cicognani, secrétaire d'État à ce moment-là, et le cardinal Cicognani, auquel je lui faisais part de mon inquiétude au sujet de cette messe normative de Père Bonini, et le cardinal Cicognani m'a manifesté son désarroi absolument. Il a dit, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je comprends très bien votre désir. Parce que je venais lui demander qu'il signe aussi le bref examen critique. Je lui demandais s'il voulait bien aussi le signer avec le cardinal Ottaviani et le cardinal Baggi, n'est-ce pas? Et alors lui dit, je suis tout à fait d'accord, mais vous comprenez, je suis secrétaire d'État, je ne peux pas faire ça, mais je ne comprends pas, je suis absolument stupéfait en pensant à ce nouvel ordre missae, à cette réforme de la messe. Mais que voulez-vous que je fasse? Il s'est pris la tête dans les mains, mais que voulez-vous que je fasse? Ce Bonini, il peut rentrer chez le Saint-Père et lui faire signer ce qu'il veut. Ah, moi, c'est ce que j'ai entendu moi-même. C'est pas un autre qui me l'a dit, ça. C'est moi-même qui s'est trouvé. Alors, quand on voit ça. Alors, déjà, cette conférence de Bonini. Ensuite, cette réflexion du cardinal secrétaire d'État, c'est quand même pas n'importe qui. Ensuite, je suis allé aussi avec l'abbé Quach. J'ai eu l'occasion d'aller au moment où il était question de la communion dans la main. Nous sommes allés trouver tous les deux le cardinal Guth, qui était le préfet de la congrégation des cultes à ce moment-là. Le cardinal Guth, quand on lui a exposé le danger de sacrilège, de mépris de la Sainte Eucharistie, qui allait être la conséquence de cette communion dans la main, le cardinal Guth a fait venir exprès pour que son second, le cardinal Monseigneur Antonelli, écoute ce que nous disions, parce que nous parlions aussi justement de la messe. D'ailleurs, on disait pratiquement, là en France, c'est le deuxième canon qui est pris par tous les prêtres. Alors ça a épouvanté le cardinal Guth. Et il m'a dit, ben, c'est bien ce que j'avais pensé. Je l'ai dit quand c'est venu. J'ai dit, voilà, vous allez voir, ils vont prendre, puis c'est le plus court, mais c'est celui-là qu'ils vont tous prendre. Et il en était, on voyait, bouleversé, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ben, il a fait exprès venir de son second, donc le secrétaire de la congrégation des cultes, qui était Monseigneur Antonelli, archevêque, et il lui a dit, écoutez, j'avais bien dit que ça serait comme ça. J'avais dit. Et alors, quand on lui a parlé de la communion dans les mains, il nous a dit, je suis le préfet de la congrégation, mais c'est pas moi qui commande. Et vous devinez bien, celui qui commande, il m'a dit. On a compris tout de suite que c'était Bonini. Et ça, il l'a dit devant son second. Il dit, si toutefois on m'interroge, et si toutefois on me demande ce que j'en pense, il m'a dit, bien, j'irai me mettre à genoux au pied du Saint-Père, il m'a dit, pour le supplier de ne pas faire une chose comme celle-là. Mais si on me le demande, nous faisant très bien comprendre que pratiquement il n'était que le second Bonini, que c'était Bonini qui avait tous les pouvoirs, que c'était lui qui prenait toutes les initiatives, que c'était lui qui allait directement chez le Saint-Père. Et donc, si le pape me demande de venir le voir, donc si on me demande de venir voir, je me mettrai à genoux au pied du Saint-Père pour lui demander. Alors, c'est même des choses anormales. On ne va pas dire que c'est une chose normale dans l'Église, ça. C'est un petit secrétaire de la congrégation du culte qui a tout pouvoir, qui peut faire ce qu'il veut. Et ça, de l'aveu du cardinal secrétaire d'État et du cardinal Guth, le préfet de la congrégation des cultes. C'est quelque chose qui est anormal dans l'Église, là. Pas possible. Et il y a longtemps que le Bonini pensait à un alignement de la messe sur la messe protestante. C'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est le cas, ça, c'est Monseigneur Pintonello qui me l'a dit. Il était aumônier des armées. Il était longtemps en Allemagne. Il parlait l'allemand couramment. Quand il venait, il logeait dans la même maison que le père Bonini. Et bien, déjà, avant le concile, il me disait, il me faisait traduire toutes les liturgies protestantes allemandes. Donc il avait déjà dans sa pensée de confronter la liturgie actuelle avec la liturgie protestante pour savoir comment préparer sa fameuse réforme. Tout correspond, c'est vraiment inquiétant. Puis ensuite, la manière dont ça a paru, la manière dont les choses ont paru. Je me souviens très bien dans l'Observatorio Romano, tout ça il faudrait le temps pour rechercher, dans l'Observatorio Romano, lors de la publication de cette réforme liturgique, le pape a présenté cette réforme liturgique comme si elle n'était pas de lui. Curieux. Moi, je me souviens très bien que ça nous a frappés. À ce moment-là, je me trouvais à Rome, et j'ai eu l'occasion de montrer cet Observatorio Romano à des amis qui m'entouraient. J'ai dit, mais regardez, comment le pape présente la réforme liturgique. C'est la congrégation du culte, le dicastère de la congrégation du culte, la réforme des paroles de la consécration, par exemple. Exactement celle de Thésée. Toutes les horizons, la prière qui est dite après la consécration du précieux sang. Prière de Thésée. Alors, on peut se demander, la réforme liturgique a consisté en définitive à prendre un texte protestant, en affirmant qu'on ne nie pas les vérités que les protestants nient. Et en vertu de la négation de ces vérités, ils ont fait ce nouvel ordo. Ils ont donc, ces protestants avaient la messe catholique, ces gens qui avaient la messe catholique sont devenus protestants, ont nié les vérités fondamentales de la Sainte Messe, le sacrifice propitiatoire, la distinction du sacerdoce des prêtres et des fidèles, la présence réelle. Ils ont nié ces choses-là, et en vertu de quoi ils ont fait une messe tiré de la messe catholique, mais en l'expurgeant de tout ce qui pouvait rappeler ces vérités. En fait, bon, pendant plusieurs siècles, les protestants sont sans servir de cette messe, eux, pour nier ces vérités. Nous voici arrivés maintenant, 4 siècles plus tard, les liturgistes qui sont introduits, les liturgistes modernes, ils sont introduits dans l'Église, n'ont rien trouvé de mieux que de prendre le texte protestant. Mais ils disent, nous ne nions pas les vérités que les protestants nient. Mais nous prenons le même texte, parce que ce texte n'a pas de texte formel hérétique. Ces textes ont été faits en vertu de la négation de ces vérités, mais ils ne les nient pas explicitement. Par conséquent, à vrai dire, nous ne faisons pas quelque chose d'hérétique en prenant ces textes-là. Résultat, qu'est-ce qui va arriver d'une pareille opération? Il va arriver que, puisque ces textes ont été faits par les protestants, avec l'idée de nier ces vérités, les gens qui vont employer ce texte finiront par nier ces vérités. C'est évident, quand on n'affirme plus les vérités qui sont nécessaires dans le sacrifice de la messe. Et si toute la structure de la messe, toute la manière de dire, par exemple, de faire le récit, on fait le récit au lieu de faire l'action de la messe, tout ce qui rappelle l'action est supprimé. On en fait un récit. Évidemment, comme c'est les mêmes textes, C'est le même texte qui est à la fois mémorial et qui est à la fois efficace de la consécration. C'est le même texte. Alors, on le considère, les protestants le considèrent comme un pur récit. Alors, nous, on va dire, ben, nous, on le considérera non seulement comme un récit, mais comme tout est fait en vertu du récit, ils ont pris des paroles, justement, qui rappellent le récit pour la consécration, on proclame tout haut et on récite en définitive paroles de la consécration, c'est un simple rappel. Alors, petit à petit, il est évident qu'à force de dire un texte protestant, même s'il n'est pas hérétique en soi et formellement, on finit par ne plus avoir les idées catholiques. C'est pas possible autrement. Alors, je veux dire, on peut résumer un peu la réforme liturgique comme ça, le texte de Thésée. Or, le texte de Thésée, c'est un exemple. Prenez les livres de Michael Davis, il montre aussi que c'est en définitive la réforme qui a été faite et est très semblable à la réforme anglicane qui a été faite aussi par Cranmer. Les protestants l'ont fait avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup de prudence, parce qu'ils savaient très bien qu'il ne fallait pas heurter les fidèles, qu'ils ne les auraient pas suivis s'ils avaient été trop brutalement. C'est pourquoi dans les textes, on ne trouvera pas dans des textes des hérésies formelles. Dans les catholiques, ce qu'ils ont dit protestants, ce serait insurgé. C'est ce que dit Luther textuellement. Prenons garde, il était très mécontent contre Zwingli et contre les autres. Melanchthon, tout ça qui eux étaient des durs et qui voulaient aller toujours l'avant, qui allaient très vite, disent non, doucement. Pour la communion dans la main, pour toutes ces choses-là. Doucement, attention. Alors c'est ça qu'il faut voir. Moi je crois que, à mon avis, pour moi je ne vois pas comment on peut dire que cette réforme n'est que mauvaise d'une manière purement accidentelle. D'une manière purement extérieure ou extrinsèque, la réforme protestante, cette messe de Thésée, est certainement mauvaise d'une manière parce qu'elle n'affirme plus l'hérité, elle n'est peut-être pas hérétique, c'est autre chose, elle n'est pas. Bon, la messe de Thésée est sans doute invalide parce qu'ils n'ont pas l'intention de consacrer vraiment pour eux, n'est-ce pas? Alors, elle peut être valide si un catholique l'a dit avec l'intention de consacrer un prêtre catholique, vraiment l'intention de consacrer, puis que c'est un prêtre qui est ordonné vraiment légitimement, tandis que les prêtres de Thésée ne sont pas prêtres, donc ils ne peuvent pas consacrer. Mais donc, la validité peut ne pas être en cause, qu'elle ne soit pas nécessairement hérétique formellement, c'est très possible aussi, que donc ça c'est autre chose là, mais autre chose dire qu'il n'y a donc rien dans la messe d'une manière générale qui soit vraiment, comme je l'ai répété je ne sais combien de fois, moi je l'ai dit d'ailleurs à Rome à mes interrogateurs, c'est une messe empoisonnée, une messe empoisonnée, parce que lorsqu'on n'y affirme plus les vérités vraiment catholiques, n'est-ce pas, de la messe, comme l'ont voulu les protestants, eh bien, peu à peu, la foi dans ces vérités disparaît aussi. Et ça, je dirais, c'est tellement évident par toutes les conséquences. Alors, je dirais, pour ce qui est de l'étude des critères internes, vous pouvez vous référer justement à tous les articles de Café Don Pace qui sont excellents. Vous pouvez vous référer aux études aussi qui sont faites par le Père Joseph de Sainte-Marie. Bien que le Père Joseph de Sainte-Marie est un peu inconséquent avec lui-même, parce que, enfin, il dit quelquefois la messe nouvelle lui-même. Mais alors, il n'y a peut-être pas un docteur, je dirais, parce que c'est même un homme très intelligent, un homme très capable, qui est le plus dur, d'une certaine manière, je dirais, pour la réforme liturgique. Je ne sais pas si vous avez lu son dernier article, qui fait au moins, peut-être presque 40 pages, dans la pensée catholique, sur le Saint-Sacrifice de la Messe, le sacrifice de la Messe, ça c'est admirable, cet article-là. Mais alors, qu'est-ce que prennent les Français, enfin surtout, sur les liturgistes français, n'est-ce pas, où ils citent des paroles, ils citent les textes de ce qui va être des petites brochures pour Lourdes et tout ça, où ils montrent que Les évêques, s'ils laissent des choses comme cela se publier sous leur autorité et qu'ils distribuent cela dans les paroisses partout avant, en prévision du congrès de Lourdes, ils n'ont plus la foi en sacrifice de la messe, qu'ils n'en font plus qu'un symbole, et que les sacrements ne sont plus que des signes et des symboles, mais ne sont pas vraiment des signes qui sont efficaces de la grâce. C'est très, très excessivement grave. Et alors il le montre d'une manière absolument admirable. Et c'est lui-même qui me disait dans un texte qu'il m'a donné à l'occasion des questionnaires que j'avais, n'est-ce pas, qui m'étaient donnés pour aller à la congrégation. La fois, je lui avais demandé de me donner quelques indications, enfin ce qu'il pensait. Alors il a répondu aux différentes questions. En ce qui concerne le nouvel ordonnance, puisque c'est de lui qu'il est question, je suis bien convaincu que le pape en promulguant, ça c'est lui, oui, et que la grande majorité des évêques en l'acceptant n'ont pas voulu autre chose que continuer à rassembler l'Église dans le sens catholique de toujours. Et bien, le rassemblement, maintenant c'est le grand mot, on rassemble, le prêtre est un rassembleur, n'est-ce pas? Non. Rassembler l'Église. Mais je suis bien obligé de constater en même temps, et en sens inverse, que ceux qui ont fait ce Novus Ordo l'ont construit selon une théologie qui est en opposition flagrante avec le dogme catholique. Enfin, notamment sur les trois points fondamentaux, l'ont construit. Il ne dit pas qu'ils ont affirmé une théologie qui est en opposition flagrante, mais ils l'ont construit selon une théologie. Vous voyez, c'est différent. Logique, une opposition flagrante avec le dogme catholique, notamment sur les trois points fondamentaux, de la présence réelle, du sacrifice eucharistique et du sacerdoce ministériel. Ça, c'est le Père Sainte-Marie qui dit ça. Pas n'importe qui. Et il est professeur de théologie à Rome, il fait des conférences publiques de théologie à Rome, tout ça, il est quand même estimé comme un théologien romain de grand renom. Le célèbre article 7 de l'Institution Généraliste n'était que l'expression la plus voyante de ces orientations. Bien sûr, on ne niait pas, ce n'était pas possible, mais on infléchissait la vérité dans un sens qui allait manifestement du catholicisme vers le protestantisme. Et cette inflexion, à mon avis, rend mauvais forcément le Novus Ordo Missae. Le cardinal Journet s'en est ému tellement qu'il vint exprès à Rome pour le dire à Paul VI. Sans doute a-t-on rectifié la rédaction de l'Institution Généraliste, ce qui représente du reste un aveu singulier quand on va au fond des choses. Mais l'Ordo Missae lui-même n'a pas été changé. C'est comme si on avait corrigé les plans d'une maison après que celle-ci ait été construite, sans lui faire elle-même les corrections correspondantes. Oui, c'est ça, qu'est-ce que vous faites? C'est reconnaître l'erreur sans la corriger dans ses conséquences pratiques. Alors, ce sont quand même des témoignages. Et je dirais qu'on a le témoignage de toutes ces consciences catholiques qui se sont révoltées, mais pensez aussi que quand il a présenté son Novus Ordo Missae, sa messe normative, à la chapelle Sixtine, le père Bonini, il y a des évêques qui sont sortis, et en particulier le cardinal Slippy, sont sortis, n'ont pas pu tolérer cette présentation de Novus Ordo Missae, en partie. Et après, quand il y a eu le vote au synode, il y a eu un vote majoritaire contre cette messe normative. Il l'a imposé quand même. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une protestation véhémente, qu'il n'y a pas eu un effort considérable contre... Mais ce que vous voulez, évidemment, avec les puissants moyens, je dirais, quelqu'un qui s'introduit dans les bureaux de Rome, si l'ennemi s'introduit dans les bureaux de Rome, et l'autorité, je dirais, que représente la curie romaine et impose avec tout le poids moral que représente la curie romaine sur le monde des choses qui détruisent l'Église, eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Les là, beaucoup d'évêques disent, oh, vous voulez, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé d'obéir, Et puis alors, les prêtres obligés d'obéir à l'évêque, les évêques obéissent parce qu'ils ont peur des conférences épiscopales, et ainsi de suite, et tout le monde dans la crainte, et tout le monde, surtout que Bonini allait très fort dans toutes ses lettres, le pape le veut. Il ne disait pas que la messe Saint-Pie V était supprimée, mais aux évêques, aux prêtres espagnols qui lui écrivaient aux 100 000 prêtres espagnols qui lui écrivaient pour lui dire qu'il voulait refuser la messe de Nouvel Ordo, mais qu'il voulait garder la messe de Saint-Pie V, il répondait, le pape le veut, vous n'avez qu'à obéir. Puis c'est tout, et les Espagnols ont obéi, ils sont mis au garde à vous, puis ils ont obéi. Ils ont obéi. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas quand même... nier ces faits-là, c'est absolument impossible. Alors, sans doute, le principe que l'Église, lorsqu'elle fait une loi sur la liturgie qui est faite pour le monde entier et qui est obligatoire pour le monde entier, est infaillible. C'est vrai. Mais je pense que c'est tout à fait vrai. Mais je pense que dans le cas présent, ce n'est pas, cette loi n'a pas été faite dans les conditions justement d'une loi normale de l'Église, des conditions absolument contraires à toute la tradition de l'Église pour la publication d'une loi. Et c'est ça qui a tombé, ce qui a permis cette réforme liturgique. Elle n'aurait jamais pu passer si elle avait été faite d'une manière normale. Jamais elle aurait pu passer. Justement, elle n'aurait pas passé à la congrégation de la foi. Et alors, la question du pape. Mais le pape lui-même a manifesté quelquefois sa désapprobation de la réforme elle-même. Alors, on dira, le pape a engagé son autorité. On l'a obligé à parler, le cardinal Villot l'a obligé à parler dans le consistoire contre moi et contre et en faveur de cette réforme en disant qu'il voulait ce nouvel ordo, qu'il voulait la réforme liturgique, etc. Mais ça, c'est, quand on connaît la pression qui était faite sur le pape, quand on connaît les mensonges qui lui étaient dits, et j'en ai été le témoin moi-même lors de mon audience avec le pape Paul VI, quand on connaît les calomnies qui étaient faites auprès du pape Paul VI, et les menaces qui lui étaient faites, les menaces de la part du cardinal Villot. Alors ce pape était angoissé, il acceptait des choses que peut-être dans son cœur il n'aurait pas acceptées, mais contraint, ayant quand même cette formation plus ou moins évidemment libérale et moderniste qu'il avait, il avait déjà cette tendance, il s'est lancé dans ce courant, mais probablement qu'il a été lui-même épouvanté par les conséquences et par l'importance de la réforme qu'on lui a mise devant les yeux, qu'on l'a en quelque sorte forcé à signer. Et puis si c'est vrai qu'il a dit au gardien de la journée qu'il n'avait même pas lu l'institution et que par conséquent ce fameux article qui est définition de la messe qui est en fait hérétique, eh bien il n'avait pas lu. Il avait dit au cardinal Journet, justement, qui est monté à Rome pour lui dire, écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas laisser une définition de la messe comme ça, c'est pas possible. Alors, il dit, ah, je n'avais pas lu, j'ai signé sans la lire. Et tout ça, il y a dû avoir des pressions qui ont été exercées sur le pape, c'est impossible. Le seul fait, par exemple, qu'ils aient imposé à mon audience le Mgr Benelli, le soir même, la veille, je vais avoir l'audience seul, le cardinal Villot est tellement furieux qu'il a imposé la présence du cardinal Benelli. Moi, je suis persuadé que ce n'était pas pour me surveiller, c'était pour surveiller le pape. C'est sûr, c'est pour surveiller le pape. Pour empêcher le pape de me dire certaines choses qu'il aurait peut-être dit, ou qu'il aurait peut-être accepté, ou qu'il aurait peut-être, on a peut-être pu s'arranger, vous voyez, entre nous. Mais la présence du cardinal Benelli retenait le pape et de dire certaines choses. Persuadé. C'était furieux, le cardinal Villot était entré en fureur. Alors tout cela explique un climat anormal qui s'est passé dans l'Église. Ce n'est que comme cela qu'on peut expliquer cette réforme liturgique qui est absolument catastrophique pour l'Église. Enfin, moi je me demande comment le pape Paul VI lui-même a pu parler d'autodémolition de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, autodestruction de l'Église? Sinon que l'Église se détruit elle-même, alors par qui? C'est malheureux qu'il n'ait pas, je dirais, explicité sa pensée à ce moment-là, d'une manière plus claire, de façon à nous expliquer comment l'Église s'autodétruisait. S'il s'autodétruit, elle ne peut que s'autodétruire par l'autodestruction qui se passe à Rome. Sans quoi l'Église ne se détruirait pas. Si Rome restait ferme, si Rome restait bien conforme à la tradition, si Rome enseignait bien toutes les choses, les Juifs ne peuvent pas se détruire, c'est impossible. Ils ne peuvent pas s'autodétruire. Ce serait été, bon, un diocèse qui aurait flanché, même un pays qui aurait flanché, tout ce que ça, l'Église a vu dans la vue d'autre. Mais là, cette autodestruction de l'Église, c'est par le cœur même de l'Église, par le sens de l'Église, il y a une autodestruction. Et c'est ça, il s'en est rendu compte, mais, vous savez, ce pauvre pape expliquait la psychologie des papes Paul VI, je vois, c'est tout un monde. Hein, un monde. Donc voilà, je pense que c'est important parce que ça a des conséquences pastorales après, vous voyez. Mais pour nous, c'est toujours été là, pour moi, enfin, c'est toujours été ce qui fait que on s'oppose. Parce que maintenant, là, c'est notre situation, elle serait facile, vous savez. Facile, le cardinal Audi, le cardinal Ratzinger l'a dit. Mais si seulement à Écône, on disait la messe nouvelle une fois par mois. Si seulement on disait la messe une fois par mois. Si seulement vous acceptiez dans des circonstances pastorales que vos prêtres disent la messe. Des circonstances pastorales, un curé qui les invite pour une cérémonie, pour ceci, qu'ils acceptaient de dire la nouvelle. Les problèmes sont terminés. Je dis, il n'y a rien à faire, éminence. Rien à faire. Mais alors vous condamnez la nouvelle messe. Je dis, oui, bien sûr. Évidemment qu'on condamne la nouvelle messe. Bien sûr, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez autrement? Il faut avoir les conséquences. Tiens, oui, je sais bien, il y a des choses qu'il faudrait modifier, je sais bien, il y a des choses qu'il faudrait, certainement, il y a des choses, et surtout dans les traductions, il y a des choses qui sont vraiment inadmissibles, je reconnais qu'il y a des choses. Oui, alors, si vous voulez, le cardinal Siri, c'est la même chose, si vous l'interrogez, il vous dira la même chose. Et ces cardinaux qui comprennent, le cardinal de Neufner de Berlin, c'est la même chose. Quand j'ai causé avec lui pendant 5 heures à ce sujet-là, mais oui, il reconnaît, il dit, oh, au fond, c'est vrai, il y a des choses, c'est vrai, il y a des choses qui sont graves. Alors.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici à nouveau réunis pour une cérémonie d'ordination aux deux derniers ordres mineurs et au sous-diaconat, en attendant la cérémonie de demain pour la réception du diaconat. Ce sont de grandes grâces qui sont faites au séminaire et aux différentes communautés qui se joignent à nous dans ces cérémonies, grande grâce faite par Dieu à ces communautés et à notre fraternité, car s'il est un don important, sublime, incompréhensible, fait par Dieu aux hommes, c'est bien celui de son sacerdoce. Et ainsi, par le sacrement de l'ordre que vous allez recevoir, mes chers amis, ce sont ces grâces particulières qui vous unissent déjà à Jésus-Christ prêtre et au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais, en quelques mots, vous encourager dans vos dispositions à recevoir cette grâce toute particulière. Le Concile de Trente nous affirme que nous pouvons et que nous devons coopérer aux grâces que nous recevons. Il le dit particulièrement contre l'erreur des protestants qui nient que nos œuvres puissent contribuer à la réception de la grâce ou à une augmentation de notre grâce sanctifiante. Et le Concile de Trente affirme au contraire que nous pouvons et nous devons coopérer à la grâce du bon Dieu et par conséquent mériter, sinon la première grâce, au moins la grâce seconde, celle qui augmente en nous la grâce sanctifiante et même mériter la gloire du ciel, qui sera notre récompense. Oui, donc nous pouvons mériter, puisque nous pouvons aussi, hélas, démériter. Et si nous pouvons démériter et recevoir une sanction grave comme celle de l'enfer, il est bien juste aussi que nous puissions mériter. Et c'est pourquoi il nous est bon de nous rappeler quelles sont ces dispositions que nous devons avoir en nous et quelles sont ces dispositions que l'Église demande, par exemple, à ceux qui, adultes, doivent recevoir la grâce du baptême. On ne peut admettre au baptême un adulte qui n'aurait pas certaines dispositions pour la grâce de son baptême, pour la grâce sanctifiante qu'il doit recevoir. Et quelles sont ces dispositions que l'Église demande? Elle demande fides theologica. Qu'est-ce que veut dire par là l'Église, fides theologica? C'est-à-dire cette foi qui n'est pas seulement une fiducia, qui n'est pas seulement un sentiment de foi, mais la foi telle que l'Église catholique l'entend, qui est une adhésion de notre intelligence aux vérités révélées par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, parce qu'il a la vérité même. Et donc la foi dans les vérités révélées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis l'Église demande également l'espérance. L'espérance particulièrement fondée sur la miséricorde de Dieu, miséricorde infinie du bon Dieu, espérance de cette grâce qui, pour celui qui va la recevoir, comprend que pour lui c'est une nouvelle existence, une nouvelle naissance, son introduction dans le corps mystique de notre Seigneur, dans le sein de la Trinité Sainte. Et tout cela grâce à la miséricorde de Dieu, grâce à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, après la foi, l'espérance, également la charité. Et l'Église demande pour ces catéchumènes, ceux qui se préparent à la grâce sanctifiante qu'ils doivent recevoir, qu'ils aient un initium vitae christiane. Initium vitae christiane. Quel est ce commencement de la vie chrétienne? Eh bien, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Un pécheur public, ne peut pas se présenter pour recevoir la grâce du baptême. C'est évident. Il faut donc qu'il y ait un commencement de vie chrétienne. Puis diligit me, dit notre Seigneur, servat mandata mea, celui qui m'aime observe mes commandements. Et par conséquent, c'est dans cette observance des commandements que se trouve déjà la charité. Cette charité qui s'exprime par la soumission à la volonté du bon Dieu. Trois dispositions fondamentales que nous avons besoin de nous rappeler, car elles sont fondamentales, c'est-à-dire qu'elles doivent demeurer tout le temps dans nos cœurs et dans nos esprits si nous voulons que la grâce augmente en nous. Nous devons garder cette foi, cette espérance, cette charité. Et en plus, l'Église ajoute encore la timor dei. Timor dei, la crainte de Dieu. Oh, sans doute, la crainte filiale. La crainte de nous séparer de Dieu, de nous séparer de notre Seigneur Jésus-Christ, de celui qui est tout pour nous, qui nous a tout donné, à qui nous devons tout. Timor Dei. Et enfin, l'odium peccati, la haine du péché, car le péché est le mal de l'homme, et celui qui risque de nous séparer de Dieu, de nous éloigner de Dieu. Voyez comme elles sont belles, ces simples dispositions que l'Église demande à tout catéchumène, et c'est pourquoi lorsqu'on prépare des catéchumènes à recevoir la grâce du baptême, on leur demande un certain laps de temps pour se préparer et s'habituer à être dans ces dispositions, dispositions qui leur permettront de recevoir la grâce sanctifiante d'une manière fructueuse, d'une manière efficace, qui fera ainsi grandir déjà leur vertu chrétienne, plus rapidement. Et pour ceux qui, comme vous, ont déjà reçu cette grâce sanctifiante, qui ont la grâce sanctifiante en eux, est-il possible encore d'espérer de faire croître cette grâce? Et les grâces que vous allez recevoir ici par le sacrement de l'ordre vont-elles vraiment augmenter votre grâce sanctifiante par la grâce sacramentelle qui va vous être donnée? Oui, vous pouvez mériter en vérité une augmentation de grâce. Mais pour mériter cette augmentation de grâce, il vous faut aussi certaines dispositions dont l'Église parle dans nos traités de spiritualité, dans nos traités de théologie. Il nous faut une plus grande charité. C'est la charité qui accroît la charité en définitive. Plus nous agissons, plus nous sommes remplis de l'amour de Dieu, de la charité de Dieu, plus nous sommes disposés aussi à recevoir la grâce en abondance. Et c'est pourquoi les âmes saintes, bien que peut-être elles aient moins de difficultés que les autres à cause de leur sainteté, à se disposer pour recevoir ces grâces, mais elles reçoivent des grâces plus abondantes que les autres, parce que leur charité est plus grande. Et comment se manifeste cette charité? Comment pouvons-nous la déceler un peu en nous? Eh bien, saint Thomas, après saint Benoît, disent que c'est la promptitude avec laquelle nous nous donnons, mon Dieu, avec laquelle nous ouvrons notre cœur à Dieu. Cette promptitude manifeste que nous aimons Dieu, manifeste que nous sommes prêts à obéir à la volonté de Dieu, à nous donner à Dieu, à faire cette oblation que vous faites maintenant de vous-même toujours davantage par ces ordinations que vous recevez. Cette promptitude. Saint Benoît la désigne surtout à l'occasion de l'obéissance. Il dit que l'on voit la charité dans l'obéissance à la spontanéité, à la rapidité avec laquelle le sujet répond à la voix de son supérieur. Allegro pede, dit-il dans sa règle de Saint Benoît, allegro pede, d'un pied vif, d'un pied rapide, il se rend à l'obéissance de ses supérieurs, pour l'amour de Dieu. Voilà ce qui manifeste la charité. C'est encore d'ailleurs ce que nous dit également saint Paul lorsqu'il dit « Ilatorem datorem diligit Deus ». Le bon Dieu aime bien celui qui donne, qui se donne avec joie. Avec joie. « Ilatorem datorem diligit Deus ». Il semble que le bon Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse, comme s'il regrettait le don qu'il est obligé de faire de lui-même, comme s'il regrettait la spontanéité avec laquelle il doit se présenter pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir l'Esprit Saint, pour recevoir l'amour et la charité de Dieu en lui. Non, le bon Dieu aime celui qui se donne avec joie. Il a rem dator rem. Et c'est encore saint Paul qui dit aussi aux Corinthiens, « Dilatamini, aux Corinthiens, dilatamini, ouvrez vos cœurs, n'ayez pas des cœurs étroits, n'ayez pas des cœurs fermés, égoïstes, qui ont peur de se donner, qui craignent de se donner au bon Dieu. Élargissez donc vos cœurs. » Voilà les dispositions qui peuvent nous faire croître dans l'amour du bon Dieu et nous faire recevoir les grâces des sacrements avec abondance. Et ainsi nous faire monter dans l'union à Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et évidemment, il nous faut aussi être dans un esprit de prière, demander au bon Dieu, parce que Ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par notre propre, nos propres dispositions personnelles, sans le secours de Dieu, que nous recevrons la grâce. Alors c'est quand nous devons prier pour demander au bon Dieu de nous donner ces dispositions particulières. Disposition si utile, si nécessaire. C'est une chose d'ailleurs que les diacres, futurs prêtres, doivent se rappeler pour leur ministère. Que la nécessité de la disposition des âmes pour bien recevoir la grâce efficacement. Il faut donc préparer les cœurs. Il faut que les cœurs se préparent à recevoir les grâces. Et ne viennent pas comme par habitude, par routine, pour recevoir les sacrements, pour recevoir la charité de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Sinon, ces grâces risquent de ne pas être fructueuses et de ne pas faire augmenter la grâce sanctifiante dans les âmes. Et le catéchisme du Concile de Trente ajoute que pour les ordinations, une des dispositions principales que doivent avoir ceux qui vont recevoir les ordres, c'est d'avoir la pureté du cœur. Pourquoi la pureté du cœur? Détachement d'eux-mêmes, détachement de toutes les choses de ce monde pour s'approcher de Dieu. Mais, dit le catéchisme du Concile de Trente, cela est nécessaire plus que pour les autres sacrements parce qu'ils doivent être des exemples, parce que ce sacrement est fait pour sanctifier la société. Ce n'est pas un sacrement comme le sacrement de pénitence, par exemple, qui sanctifie l'âme du sujet qui se confesse, qui reçoit la grâce du sacrement de pénitence, mais l'ordre est un sacrement qui sanctifie pour sanctifier les autres. C'est une grâce particulière qui est donnée pour la sanctification de la société, comme la grâce du mariage est donnée pour la sanctification de la famille. Et donc pas seulement pour les parents eux-mêmes, mais également pour la sanctification de la famille. Bien de même, l'ordre pour la sanctification de l'Église, pour l'accroissement de l'Église, pour l'accroissement du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce vous est donnée. Et justement pour être un exemple de cet amour de Dieu, cet amour total de Dieu, pour ce détachement total des choses du monde, eh bien, le catéchisme du Concile de Trente nous apprend qu'il faut que ceux qui se disposent aux ordinations aient le cœur pur, le cœur détaché, détaché de toute chose pour qu'ils soient vraiment attachés à Dieu et qu'ils soient ainsi une lumière qui brille par leur sainteté et qui aide les fidèles à se sanctifier aussi. Voyez, voilà les dispositions dans lesquelles vous devez être ce matin et demain matin pour recevoir cette grâce exceptionnelle du sacrement de l'ordre. Remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à la très sainte Vierge Marie, car c'est par elle que vous recevez cette grâce. Toutes les grâces nous viennent par les mains de Marie. Que ce soit là une grande consolation pour nous, car elle est si bonne, elle est si attentive pour nous, pour chacun d'entre nous, qu'elle nous aidera à avoir les dispositions qu'elle a eues elle-même lorsque la grâce du Saint-Esprit est descendue en elle au moment de l'Annonciation. Oh, s'il y avait un cœur disposé, c'était bien celui de la Vierge Marie. Alors que nos cœurs soient disposés comme le sien pour recevoir cette grâce de l'ordination, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.